C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de la petite sirène et pour m'accompagner, je suis avec monsieur Adjane Chélil. Salut Adjane.
La plus sirène de tes collaborateurs.
Exactement.
Comment tu vas Thibaut?
Ça va très bien. Et toi?
Écoute, ça va super bien.
Tu es sorti de l'eau pour venir discuter avec nous qui enflamme les foules actuellement.
Je suis sorti de l'eau pour venir discuter avec vous de mes consoeurs sirènes et qu'on puisse avoir une discussion là-dessus. Il aura suffi que Disney balance la bande-annonce de son prochain film et puis voilà, la petite sirène pour que les réseaux sociaux s'enflamment sur un sujet qui ne devrait même pas en être un. Effectivement, on a vu, ça devient un sujet de société. Il y a la petite sirène qui est noire. Waouh! Et puis il y a aussi House of the Dragon autour de Game of Thrones. On retrouve aussi les anneaux de pouvoir autour du Seigneur des Anneaux. Et tout ça crée une petite polémique qui a enflé comme ça sur les réseaux sociaux. Donc on va essayer ce matin d'analyser un petit peu l'ampleur de tout ce qui s'est dit sur les plateformes sociales. Et puis d'essayer de comprendre pourquoi ça choque autant de gens. Est-ce qu'il devrait y avoir des personnages noirs que dans le film tout simplement noir? Je ne sais pas. Moi je pense pas. Mais bon, c'est. On va voir ce qu'on en dit et est-ce qu'on en analyse.
Oui, parce que depuis que Disney a dévoilé le teaser de La Petite Sirène mettant en scène une Ariel noire incarnée par Hailey Bailey, les réseaux sociaux se déchaînent en commentaires racistes. La bande-annonce, elle a été publiée le 10 septembre de cette année et elle culmine déjà à 23 millions de vues. C'est énormissime, hein, 23 millions de vues. On est bien au-delà des chiffres des bandes-annonces des autres blockbuster de Disney, énorme buzz sous cette vidéo YouTube avec 23 000 vues, on trouve 255 000 commentaires. Je sais pas si on se rend bien compte le volume que
c'est
ça
énorme.
Représente énormément de énormément de conversations. Et si les premières réactions elles ont été plutôt sympas, très vite le clivage a repris les devants, lançant une polémique extrêmement complexe, douloureuse pour certains sur les réseaux sociaux.
Ouais, notamment comme tu le disais sous cette vidéo YouTube, 2,7 millions de j'aime pas. J'ai eu des screenshots de ça, 2,7 millions de j'aime pas sous une vidéo, c'est quand même énorme. C'est beaucoup plus, c'est quasiment deux fois plus que les j'aime en plus. Donc ça pose quand même des questions. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça date en fait, si on remonte un petit peu l'historique de cette polémique, ça vient de 2019 puisque à l'époque Disney avait déjà annoncé son choix en 2019 pour la chanteuse américaine Hailey Bailey pour interpréter Ariel au cinéma. Donc juste à l'époque, on a déjà quelqu'un qui a 19 ans, qui décroche le plus grand rôle de sa vie et qui se mange un hashtag NotMyAriel sur Twitter, que je vous déconseille d'aller regarder ce hashtag NotMyAriel. Il y a énormément de conneries dessous, mais surtout le regret d'une chevelure rousse, de yeux bleus et de peau blanche. Une nostalgie qui me rappelle plutôt des mauvais souvenirs personnellement. Et d'ailleurs, petit aparté publicitaire là-dessus, très intéressant sur Twitter, puisqu'au milieu de ce hashtag un petit peu nauséabond, je tombais quand même sur un post sponsorisé. De Domino's Pizza et Quotidien.
Ok, très bien.
Qui tombait au milieu de ces. Donc, c'était sur le championnat de France de barbecue. Et c'est tombé au milieu de tous ces tweets un peu chelous. Et du coup, je me disais, parfois, quand même, une plateforme saine pour faire du placement publicitaire.
Ça, c'est un environnement brand safe. Voilà. Ça, c'est bien joué.
C'est un petit peu mieux, quoi.
Oui, parce que ce qui se passe, en fait, c'est que Disney est accusé de blackwashing. Alors, si vous n'êtes pas très familier avec ces termes, on va vous expliquer. Parce que ça, on est dans des terminologies très 2022, j'ai envie de dire. Certains voient dans le choix du casting une trahison de l'œuvre d'Anderson, dont le texte décrivait Ariel à l'époque comme ayant la peau diaphane. Donc ils disent non, c'est pas fidèle. Et ils parlent à ce moment-là de blackwashing. C'est un phénomène. Alors essayons d'expliquer ces néologismes, blackwashing.
Ce serait de la discrimination positive, grosso modo. Ce serait de dire on met des personnes de couleur à des postes où elles devraient pas être, comme là la petite sirène puisqu'elle est censée être blanche. Et donc du coup de la discrétion positive.
Oui, c'est le fait de choisir un acteur noir pour incarner un personnage qui est non décrit comme tel dans le récit d'origine. Et puis le whitewashing, eh bien c'est l'inverse.
Ouais.
C'est quand effectivement on utilise un personnage blanc pour incarner un acteur blanc pour incarner un personnage noir. Bref, tout ça est assez nauséabond, assez dégueulasse. Et une fois de plus, Twitter nous donne une preuve que finalement le clivage est l'un des moteurs du conversationnel en ligne.
Bien sûr.
Sur Twitter, tu en as parlé, ce hashtag Not
Marielle qui
culmine et puis agrège effectivement une déferlante de commentaires plus ou moins foireux pour le mieux et ouvertement racistes pour le pire. Encore une fois, je trouve ça dommageable parce que c'est l'un des plus grands reproches qu'on fait aux réseaux sociaux, c'est qu'ils participent à la division de notre société. Et ce
Exactement.
Genre de polémique, eh bien, ça vient rajouter une pièce dans la machine. Et c'est vrai que si on en a déjà parlé ici au micro du Super Daily, les réseaux, ce sont des catalyseurs de la polarisation affective, on va dire. Hein. Mm-hmm. Les discours extrêmes, ils attirent l'attention et c'est assez mécanique, c'est-à-dire que celle des internautes et celle des algorithmes. Et forcément, dès qu'il y a un sujet clivant, dès qu'il y a un sujet polémique, eh bien, il attire beaucoup plus l'attention et il génère plus de commentaires et d'algorithmes.
On voit ça déjà dans nos sociétés sur différents aspects, puisque au final, c'est le clivage dont tu parles, c'est la même chose dont se nourrissent les grands médias aujourd'hui d'infos continues comme BFM Télé, iTélé, qui se nourrissent de clivages en plateau qui se perpétuent sur les réseaux sociaux après et qui fait monter des extraits vidéo de leurs émissions. C'est exactement là-dessus qu'ils se basent. On a vu Combini il y a quelques années, hein, des médias plus un petit peu plus mainstream le faire aussi, hein, des voter pour tel artiste ou tel artiste et avoir deux communautés d'artistes qui s'affrontent sur les réseaux sociaux pour faire plein de commentaires. Et effectivement, le clivage amène le débat et le débat amène le commentaire. Malheureusement,
et les algorithmes
souvent,
s'emballent et voilà. Boum, je me retrouve avec un trending.
Souvent, le débat vole pas très haut, quoi. J'ai envie de dire, là, pour revenir un peu sur ce que tu disais, effectivement, faut savoir que le dessin animé était sorti en 1989. Hein, ça fait quand même très longtemps déjà que Ariel n'avait pas été remis un peu au goût du jour. Elle était effectivement rousse et blanche et elle s'inspirait d'un conte d'Andersen, hein, t'en parler un petit peu, mais ce même conte apparemment serait peut-être aussi inspiré d'autres mythes et légendes qui datent d'encore avant Andersen et au final qui on est pour savoir de quelle couleur aurait été la petite sirène dans les mythes et légendes il y a des centaines et des centaines d'années. Je pense qu'il faut vite sortir de ce genre de détails, sachant qu'il y a même j'ai vu des personnes essayer d'expliquer scientifiquement pourquoi une sirène qui est sous l'eau
ne pouvait pas être noire parce que les rayons du soleil, bah bien sûr, je suis tombé aussi sur cette
ça en est devenu drôle. Là,
oui, les amis, qu'on se le dise, n'en déplaise aux cons, hein, il semble qu'il y ait vraiment un problème de représentation des personnes de couleur sur le grand écran. Ce que le fond du sujet, c'est quand même ça. En 2020, selon un sondage du National Research Group, 2 Afro-Américains sur 3, donc là on est aux États-Unis, hein, jugent que leur vie n'est pas correctement représentée à l'écran. 2 sur 3, c'est énormissime. 74% des personnes interrogées assuraient qu'un contenu inclusif était un facteur déterminant pour regarder un programme. N'oublions pas qu'aux États-Unis, où on est dans une société où le clivage racial est quand même énorme, endémique et visiblement continue à grandir, on a quand même des chaînes qui sont des chaînes Black Entertainment TV, etc.,
ouais,
des chaînes pour les gens de couleur,
ouais,
de façon à avoir des chaînes communautaires. Mmh. Et là, Disney s'est pas trompé. En fait, l'entreprise de Burbank, hein, elle a été attaquée à nombreuses reprises par le passé, par le manque de diversité de ses personnages, on y reviendra sans doute, et là elle fait un pas significatif dans cette direction.
Ouais, moi ce que je trouve intéressant là dans ce que tu racontes aussi, c'est deux points, c'est qu'il faut se souvenir qu'il y a une époque à Hollywood où le cinéma américain a été obligé d'intégrer des personnes de couleur dans ses castings, c'était devenu une obligation, et il y a toute une série, je ne me rappelle plus les années, il faudrait se renseigner, mais il y a toute une série de films à une certaine époque où du coup on avait des noirs qui jouaient dans ces films et qui mouraient dès le début du film. Parce qu'il fallait les intégrer il fallait les mettre dans le film, mais on n'avait pas envie de les mettre dans le film.
Comme les filles de Cowboy et d'Indien.
Voilà, donc du coup, on les faisait mourir au bout de 4 minutes de film. C'était le noir qui mourait au début du film, quoi. Et je trouve que, en fait, ce que ça raconte, là, ce qui est en train de se passer, c'est aussi nos représentations, notre propre représentation de ce qu'on a du bien et du mal. Comme disait Gourou et MC Solar à l'époque, hein, ça doit te parler, ça, Thibaut.
Bien sûr.
Le bien, le mal, et en fait, on s'est. Ça, c'est pas vraiment un problème qu'il y ait des noirs dans des films aujourd'hui, on a passé ce cap-là. Aujourd'hui, ça pose plus de problème si y a un noir dans un film, mais à condition qu'il joue un criminel, qu'il joue un pirate, qui joue un esclave, qui joue un rôle de méchant, on a zéro souci avec soi parce que en fait on a construit une représentation où le noir c'est plutôt le méchant, le mal qui s'est construit en opposition avec le blanc qui lui représente l'innocence, mais même la couleur blanche, hein, l'innocence, la pureté, l'immaculé, le bon, le bien, le riche. Et ce sont des images qui sont transmises par nos cultures, nos traditions et face auxquelles on essaye petit à petit de se détacher. À l'inverse, dans les, même les expressions françaises, hein, nous on a des expressions comme la colère noire, comme la misère noire, c'est quand même souvent des choses qui sont très négatives, même dans la sémantique. Aujourd'hui, on est en train de changer. Il y a des héroïnes d'enfants qui deviennent noires et qui peuvent représenter la pureté et l'innocence. Et tant mieux, j'ai envie de dire.
Ouais. Et pour revenir à Disney, hein, Disney et la diversité, c'est un sujet compliqué qui prend du temps. On va revenir un peu aux fondamentaux. Jusqu'à présent, on ne trouvait qu'une seule princesse noire chez Disney, la princesse Tiana de La Princesse et la Grenouille. Je sais pas si tu l'as vu ce dessin animé, moi je l'ai vu avec ma fille, super. Et plus globalement, Disney a effectivement une fâcheuse tendance depuis ses 78 dernières années à oublier d'intégrer dans ses scripts des personnages issus de la diversité. C'est un reproche qui lui a été fait à de nombreuses reprises. Ouais. Juste un rappel, au cours des 78 ans d'existence des studios Walt Disney, il y a eu peu de personnages principaux non blancs dans ces 54 films qui ont été tournés. Depuis la sortie de Blanche-Neige et Les Sept Nains en 1937, il n'y a eu que 11 longs métrages sur 54 dans lequel les personnages principaux étaient d'une autre origine qu'occidentale.
Aladdin, non ?
Eh bien voilà, le tout premier, les tout premiers,
bon,
le tout premier personnage racisé, on va dire, qui sont apparus, hein, c'était la sortie d'Aladdin en 92. Et puis depuis 2015, il semblerait que Disney souhaite accélérer sur ces sujets avec dernière en date, eh bien Ariel, la petite sirène. Et moi j'aimerais, parce que là on parle de tous les trucs dégueulasses, mais je trouve qu'on pourrait aussi parler de trucs chouettes, hein, autour,
ouais,
de cette annonce.
Bah oui.
Et notamment le fait que Ariel et ses dreadlocks, parce qu'elle a des dreadlocks, a été accueillie avec beaucoup d'émotions par les gamins. Je pense que tu as vu comme moi circuler cette vidéo. J'ai vu un mashup monté par Brut de vidéos issues de TikTok dans lequel des parents ont filmé les réactions d'enfants.
Exactement.
Face à la projection de la bande annonce.
Ouais, il y a toute une trend autour de ça et ça c'est chouette parce qu'on parle toujours des trucs dégueulasses qui se passent sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi des jolies trends et des moments positifs. Et effectivement, pour répondre à toute cette vague un peu raciste qui est arrivée, il y a beaucoup de parents qui ont décidé de montrer la réaction de leurs enfants face à la découverte de la bande-annonce de la petite sirène. On voit beaucoup de petites filles ou d'enfants noirs qui découvrent ça et qui sont émus de se rendre compte qu'il y a une héroïne qui a la même couleur de peau qu'elle, et rien que pour ça déjà c'est très touchant et on se dit que ouf, on va dans le bon sens.
Bah, on se dit surtout que tout ça c'est des conneries d'adultes.
Ah, bien
les,
sûr.
Les gamins n'en ont rien à foutre.
Et c'est ce que j'allais dire.
Et je voudrais profiter de ce petit moment pour qu'on se pose aussi la question un peu troublante de l'interprétation des personnages fictionnels et de leur couleur de peau. Est-ce que je trouve que moi ça m'a amené à réfléchir quand même plus loin, parce que rappelons,
on parle
que
quand même de monde virtuel,
voilà,
monde
rappelons quand même que la petite sirène c'est un personnage fictif, hein. Les sirènes n'existent pas, les amis, ça, pas dans la vraie vie en tout cas.
Et je trouve que ça c'est le plus beau, c'est le comble de toute cette histoire, c'est de se dire non mais attends, les mecs inventent des mondes imaginaires et en plus il faudrait que dedans tout le monde soit blanc. Et bah, les gars, c'est quand même,
voilà,
super
comme
chelou,
comme pour ce qui se passe derrière le mur, pareil, hein, n'existe pas non,
ouais,
plus, hein, le mur de glace n'existe pas. Un personnage fictionnel ou mythologique, on va dire, c'est un personnage qui par définition est le fruit d'une projection personnelle ou individuelle, hein. C'est dans mon imagination que ça existe, tout ça je peux m'en faire l'image que je souhaite, et à ce titre ça m'a projeté sur, alors excusez-moi là je fais un grand écart, la représentation de Jésus et de la Sainte Vierge. Ça aussi je trouve ça très intéressant.
Alors là,
parce que, le Christ et la Sainte Vierge, ils sont aussi représentés différemment aux quatre coins
bien
du monde,
bien sûr. J'ai vu en voyageant, tu te rends compte quand tu voyages que Jésus n'a pas la même tête en fonction du pays où tu vas.
Eh bien oui, alors évidemment, la vision européenne, occidentale, hein, d'un Christ à la peau diaphane, là aussi, aux yeux clairs, etc., on va dire, a influencé d'autres coins du monde, notamment en raison du commerce,
sûr,
de la colonisation, etc. Mais on trouve aussi de très nombreuses représentations d'un Christ au trait africain, au trait, ouais, asiatique, etc. Bah oui, parce que c'est un personnage fictif, tu peux l'intégrer dans ton imagination.
Qui te ressemble.
Hein, donc je vous mets juste un lien, si vous aviez besoin d'être finir plaisir d'être convaincu. Je vous mets un lien vers un Google Images là-dessus assez ouf où on voit effectivement les différentes représentations d'un personnage mythologique comme le Christ.
Mais en tout cas, je trouve que tu as raison sur quelque chose. C'est aussi une question d'époque parce que à l'époque où Andersen, par exemple, il écrit son conte en Scandinavie et qui décrit une petite sirène à la peau diaphragme, je pense pas qu'à l'époque Andersen est dans les années 40, il est dans, je sais plus, en 1930 ou je sais plus en quelle année, même avant, je crois, il a écrit ça. Il est au milieu de la Scandinavie, des Noirs ou des Arabes, il en croise pas beaucoup autour de lui, hein, qu'on se le dise. Donc c'est peut-être compliqué pour lui de se projeter en disant tiens, je vais mettre une sirène noire et une sirène blanche. Et forcément, aujourd'hui, il y a d'autres artistes qui arrivent. Il y a ce petite sirène, il a été fait par aussi des réalisateurs qui sont de notre époque, qui eux sont entourés par des sociétés qui sont plus cosmopolites. Et c'est normal que dans ces sociétés plus cosmopolites, on projette, quand on imagine des mondes un peu plus imaginaires, des gens qui ressemblent aussi à notre entourage et qui ressemblent aux gens qui vivent autour de nous. Et
putain de merde, on est en 2022.
Bah ouais,
ça suffit, non, ces conneries. Et puis tiens, pour rajouter un dernier point, et si tout ça, parce que quand même, parlons un peu business, ici on aime bien parler marketing, business.
Est-ce que tout ça ne servirait pas un peu à Disney aussi?
Ben oui, et si tout ça finalement n'était pas une sombre histoire de merchandising? Bien sûr, on le sait, le choix d'un personnage Disney, il ne se fait pas que seulement sur des questions de recettes d'entrée au cinéma. Ouais. C'est presque mineur aujourd'hui chez Disney. Hein. L'exploitation du film via le merchandising, c'est un énorme business pour les studios Walt Disney. Et je suis tombé sur une étude très intéressante de Jody Zierski. Voilà, qui a étudié comment la couleur de la peau et des cheveux des princesses Disney avait un impact sur les ventes de merchandising.
Bien
bah
sûr.
Oui, quand je dessine un personnage, je me pose la question de savoir si oui ou non, derrière, j'ai des options de merchandising. Et là, alors c'est une étude qui date un peu, et j'imagine qu'entre-temps, les choses ont pu bouger. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a croisé le nombre total de ventes eBay en dollars avec l'ethnicité des princesses. Mmh. Voilà, hein, donc c'est assez simple et les résultats sont troublants. Voilà, ça c'était en 2015. Le merchandising des princesses de couleur se vend nettement moins bien, tout simplement, selon elle, hein, en tout cas, que les princesses de représentation blanche, hein, y compris d'ailleurs même les princesses un peu historiques comme La Belle au Bois Dormant, etc., etc. Et selon elle, c'est sans doute pas exclusivement lié à la couleur de peau, mais lié au pouvoir d'achat des familles.
Ah,
bien sûr, ça
aussi,
c'est intéressant.
Bah oui. Oui, et là on parle après des discriminations.
Et je pense que dans le move que fait Disney, bien sûr qu'il y a un choix éthique, déontologique et engagé. Hein.
Je pense
Disney a envie de marquer les
dire,
esprits.
On vit dans notre époque.
Exactement. Et puis à côté de ça, je pense aussi qu'il discerne qu'il y a un changement du côté des possibilités de pouvoir d'achat et qu'il y a des cartes
bien
à
sûr.
Jouer en ayant un personnage incarné et derrière du merchandising à l'attention d'un public différent.
Bon, écoutez, pour conclure, je dirais que tous les enfants, peu importe leur couleur de peau, peuvent se reconnaître à travers n'importe quel personnage. On s'est tous identifiés à Simba, hein, qui est un lion. Donc on peut arriver à s'identifier à n'importe quelle couleur de peau.
Ou Haïti, voilà, à partir de là, tout est dit.
Tous les matins à 9h, on est sur Twitch et on décrypte l'actualité social média et parfois un peu plus loin des faits de société comme là pour voir un petit peu ce que ça donne sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas tous les matins à 9h sur Twitch à venir en parler en direct avec nous. Sinon, si là sur le sujet vous avez envie d'en discuter, ben nous on est là, hein, Supernatif, @supernatif sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, on est partout, venez en parler.
Et puis partagez cet épisode à un pote. Tiens, partagez-le aussi à tonton qui va vous casser les pieds ce dimanche au repas
de
midi.
Préparez le repas de Noël de
voilà,
trois mois.
N'hésitez pas à partager cet épisode. Peut-être que ça peut aiguiser son point de vue. Merci à vous tous. On vous embrasse et on vous souhaite une très belle journée. Salut
Allez,
tout le monde.
Ciao.
Bye.